Donc effectivement, c'est la première année qu'il y a l'aboutissement jusqu'à la réalisation de dossiers pédagogiques donc dans les classes. Oui. Donc du coup, on a vraiment l'étape de la création à la réalisation, enfin de l'impact sur les élèves. Donc c'est en quelque sorte un circuit complet. Et, voilà. Et l'école normale de Lyon et l'école d'Arles de photo, finalement, devient une sorte de centre aussi de formation. Enfin, une autre manière de former ouais. les futurs enseignants, puisque ça dépend d'élèves.
Ouais. Là, ils m'ont fait part qu'ils vont l'utiliser, parce que dans le cadre des rencontres de la photographie à Arles, ils ont, au mois de septembre, tout un travail avec le CNDP, l'Académie d'Aix-Marseille, autour, alors je ne sais plus, la rentrée en images, voilà. Ça s'appelle la rentrée en images. Et une des propositions, ça va être de partir de la distance par des enseignants d'Aix-Marseille.
Et puis une autre piste aussi, enfin, qui m'avait semblé intéressante, c'est que dans la manière de travailler de David, donc c'est l'association entre un étudiant de l'ENS, un étudiant d'Arles, mais pour la réalisation d'un objet, c'est-à-dire que l'évaluation de leur travail, enfin l'aboutissement de leurs connaissances, de tout ce qu'ils ont appris dans l'année, se transforme en une œuvre, un livre et une exposition. Donc ça change aussi sur les modalités d'évaluer le travail des élèves. Et ça me semblait intéressant parce que on avait eu un grand débat à un moment sur l'écriture d'invention au lycée. Et je trouvais que ça ouvrait d'autres perspectives, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment donner l'initiative, en quelque sorte, à la créativité de l'élève. Bon. Mais je sais que ça posait beaucoup de problèmes pour les enseignants qui avaient un petit peu peur d'évaluer un travail qui n'est pas codifié institutionnellement. Et là, donc, ça nous donne quand même des exemples de réussite qu'on pourrait peut-être importer donc à l'école. Voilà. Et qu'on quitte effectivement ce rôle très traditionnel d'évaluation. Enfin, peut-être, Madame Bissot, vous avez peut-être un mot.
La difficulté d'écriture d'invention au lycée, c'est que c'est une épreuve de baccalauréat. Donc, d'où le problème de l'évaluation. Voilà. Sinon, comme pratique, il n'y a pas de problème, mais le jour du bac, il faut définir des critères, et ça affole les professeurs.
Voilà, donc il y avait effectivement cet écart entre ce qu'on peut faire dans l'année comme exercice, enfin, et effectivement comme épreuve certificative, quoi.
Oui. Il y a peut-être une possibilité de s'inspirer... des évaluations qui sont faites en art plastique et qui portent bien par définition sur des travaux de création. C'est vrai que c'est un débat qui m'intéresse beaucoup parce que même en lettres modernes, par exemple à l'université, il y a de temps en temps cette tendance à dire voilà, il faudrait réintroduire des pratiques d'écriture créative dans les cursus. Et personnellement, je suis persuadée que c'est une bonne idée, même si ça pose des questions. Mais
c'est peut-être un peu désolant, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de professeurs qui se plaignent du fait que les élèves, étant donné que c'est un enseignement d'exploration, ne prennent pas très au sérieux. Les parents disent qu'il n'est pas noté, donc c'est pas la même chose que le cours. Alors, moi, je trouve qu'on devrait effectivement s'inspirer... De pratiques d'évaluation qui concernent les enseignements artistiques, parce qu'on a tout à fait les moyens d'évaluer, mais différemment. Il faudrait arriver à s'entendre sur des modes d'évaluation de ce type pour tout ce qui est pratique créative, y compris d'écriture.
Bonjour, je suis confuse et je vous présente mes excuses de mon retard. Je voulais avoir des éléments un petit peu concrets sur la manière dont les élèves avaient collaboré, puisque vous présentez des élèves d'Arles et des élèves de l'ENS. J'aurais voulu savoir si vous aviez des idées de la manière dont ils se sont retrouvés, dont ils ont échangé, et s'il y avait une part du numérique, puisque c'est notre objet, dans cet échange, parce que je suis assez frappée pour accompagner des professeurs stagiaires qui sont maintenant contraints de passer le C2I2E, des pratiques numériques des étudiants de l'être. Alors, est-ce qu'il y a eu une collaboration, par exemple, en ligne? Est-ce que vous avez utilisé une plateforme? Ces questions-là un peu pratiques. Voilà, je sais qu'on n'est pas dans la réalisation, là, mais du coup, c'est aussi intéressant.
Merci, parce que ça fait partie aussi du processus. Oui. Donc, dans l'édition, par exemple, de Trafic, il y avait Vincent Zonka, donc un élève en poésie contemporaine du pourtour méditerranéen. Il fait son travail sur cette thématique, qui a travaillé avec la photographe Amélie Lucas. Et moi, la richesse de ce projet, c'est l'altérité. Hein. C'est la rencontre de deux élèves qui n'ont rien à faire ensemble au départ. Et ça fait des frottements, et c'est à travers ces frottements qu'on crée. Et c'est vraiment... Parce que je parle de ça, parce que Amélie et Vincent ont été dans une impasse jusqu'à l'exposition, jusqu'à la publication, pardon. Et ils n'arrivaient pas à travailler ensemble, ça ne marchait pas, etc. Et on a rejeté plusieurs fois leur projet. Et Amélie a une bourse à New York, à ICLP, International Center of Photography. Et donc, elle est partie outre-Atlantique. Et donc, ils ont dû continuer le projet. Donc, ils se sont dit, on repart à zéro, on annule tout. Et du fait que de l'éloignement, ils ont travaillé via Facebook. Voilà. Et tout le travail après de Vincent, d'écriture, ça a été de reprendre les passages de Facebook, mais dans les messages privés, de le mettre dans une forme de messagerie plus académique, Internet, de courriel. Et tout son travail, ça a été de faire des coupes, des réajustements à travers ces envois d'écrits, qu'elle validait, qu'elle rectifiait, qu'elle... voilà. Je vais vous montrer... Par exemple, vous voyez là, ouais, vous ne voyez pas d'ici, mais il reprend donc la forme d'un mail, hein, date, etc. Bonjour Amélie. Donc là, il réexplique le projet, comment ils vont repartir. Voilà. De toute façon, le titre de leur projet, c'est Lyon-Brooklyn, repartir à zéro. Voilà. Vous voyez, rien n'est caché. Hein. Ça participe du projet. Voilà, où il reprend des morceaux qu'il avait écrit dans Facebook, trouver une échelle, un lieu, donc il y a la latitude et la longitude, où est posé le briquet de, voilà, parce qu'elle travaille sur l'inframain, sur le petit, donc elle dispose dans l'architecture de New York un briquet, et elle photographie, donc c'est la relation à l'espace, voilà. Et elle-même devient un briquet aussi dans ses vidéos, où elle met un t-shirt rouge. Et c'est assez magnifique ce profil du côté, de l'autre côté, parce qu'il manque les fameuses deux tours, mais sans spectacularisation dans la proposition. Voilà. Et lui, vous voyez, réajuste aussi un mail en fonction de l'orthonormie de New York.
Donc, excusez-moi, voilà. je prolonge ma question, mais en termes techniques, oui. Par exemple, là, vous montrez des mises en page typographiques. Est-ce que c'est les élèves qui ont...
Oui.
Qui ont géré ça?
Les 10 pages, c'est eux. Parce que dans la formation, ils ont un séminaire, donc un séminaire scientifique, un séminaire avec des graphistes, un séminaire avec un typographe, voilà. Mais chaque école aussi, parce que voilà, tout ça induit des frais, des coûts aussi, donc chaque école a aussi ses compétences. D'accord. Donc voilà, on finance les déplacements des élèves de part et d'autre.
Voilà. D'accord, donc il y a eu du présentiel et il y a eu aussi... Oui. De l'échange. Et la question que je me posais, c'est ne le vivez pas comme une provocation, mais c'est vos élèves sont destinés à être des enseignants?
Oui, à la
voilà,
base.
Pour la plupart. Est-ce que dans la démarche, puisque vous avez dit que ça avait amené à une exposition, on est plutôt dans une démarche artistique, est-ce que vous avez eu l'impression que dans la démarche de conception de dossiers pédagogiques, il y avait une construction, je veux dire, de professionnalité, ou que finalement c'était pas la partie qui
ben, si vous voulez, ils sont tous oui. Une fois qu'ils sont rentrés dans l'école, ils doivent avoir l'agrégation, donc voilà. Mais oui. Si vous voulez, tous ceux qui travaillent sur des projets artistiques, moi je dis, hein, le mot art, c'est une question de trip, hein. c'est pas voilà. C'est après, c'est une question de volonté, de voilà. Alors, ils ont déjà un énorme background de théorique, etc. Donc, Ça peut, pour une carrière artistique, ça peut les mettre à l'étrier, un pied à l'étrier sur d'autres problématiques, si vous voulez. Je ne sais pas si je... Alors je reprends ma formulation. Parce que là, je reprends ma casquette de responsable des affaires culturelles. Quand l'école est partie de Fontenay et Saint-Cloud, on a tout fait pour avoir un vrai théâtre, pour avoir une vraie galerie d'exposition. Pourquoi ? Parce que ce sont des équipements pédagogiques. Parce que quelqu'un qui va pouvoir jouer une pièce de théâtre, il va comprendre ce que c'est qu'une didascalie. Et il va pouvoir mieux enseigner une pièce de théâtre en l'ayant jouée qu'en ayant été toujours confronté à l'écriture de la pièce. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'avec Jean-Louis Rivière, l'enseignant en études théâtrales, la question de pratique est très importante aussi pour les futurs enseignants. Voilà. Mais ça, c'est le parti pris c'est le propos de notre école. Ça n'engage que nous. Voilà.
Mais ce que veut dire Yaël, enfin, si je me permets, enfin, si je
puis après, après, je suis d'accord sur la question des moyens, parce que hier, j'entendais que dans un collège, il n'y a qu'un seul ordinateur dans une salle de cours, et ça, je comprends qu'on dispose de moyens. Voilà. Mais dites-vous que, par exemple, sur un projet avec l'école d'Arles, je préfère travailler en équipe et à plusieurs, mais si vous voulez, le financement, l'école d'Arles, elle, supporte avec le ministère de la Culture et la région PACA, le projet. Nous, c'est Histoire de l'art, c'est une masterclass qui est financée par la région Rhône-Alpes. Moi, c'est sur des crédits ANR de la recherche. Et aussi le laboratoire de Jean-Marie Glaise, qui est maintenant Éric Dair, sur des projets recherche, voilà, du ministère de l'enseignement de la recherche.
Ne culpabilisez pas, tant mieux que vous avez de belles installations, les élèves qui sont chez vous l'ont mérité, ils ont suffisamment, c'est pas la question, mais ma question c'était vraiment, est-ce que dans cette démarche, c'est quand même des futurs enseignants, et certains d'entre eux, pour en avoir connu, iront aussi peut-être une année ou deux, mais ils iront peut-être aussi en collège, en lycée, voilà, en général c'est leur passage y est court, mais voilà. Il y a quand même une démarche d'enseignement. Et je me demandais si, puisque vous avez dit que cette année, ça avait abouti vraiment à la rédaction de dossiers pédagogiques en vue d'être utilisés par des classes, comment les élèves avaient réagi à ce travail-là ? Est-ce qu'il y avait eu un investissement de ce point de vue-là ? C'est compliqué comme exercice. C'est sûr que c'est pas forcément artistique, mais ça n'en reste pas un exercice complexe, quoi.
Voilà. Oui, c'est sur les questions de transmission. Mais après, Martine,
voilà, David, excuse-moi aussi, tu me permets, la présence d'une étudiante de l'ENS qui est dans le dispositif là montre qu'elle est intéressée par les questions pédagogiques. Voilà, donc c'est ça la question. Oui. Est-ce que les étudiants sont intéressés par la question pédagogique ? Et il me semble que Éric Dair a répondu aussi à la question, dans la mesure où il a fait cette articulation centre labo de recherche, donc de l'ENS, le CERC, et l'IFE. Et j'ai envie de dire, ce séminaire-là, c'est l'articulation CERC-IFE. On l'a construit ensemble, lui et moi. Et donc, c'est bien avec cette idée-là, l'ENS, voilà, avec tous ces dispositifs de création, avec tous ces moyens, etc., on essaie de créer quelque chose, mais dans la perspective de la transmission. Alors, bon, ce matin, il n'y a peut-être qu'une étudiante de l'ENS, mais n'empêche qu'il y a... ils seront là à d'autres moments, etc. Enfin, il y a aussi les cours. Mais je pense qu'il y a une volonté, en tout cas, de faire en sorte que ces étudiants, effectivement, aient la préoccupation de se dire « on va transmettre ensuite ce que l'on fait ». Voilà. Donc, c'est dans ce sens. Excuse-moi,
Mais on peut peut-être demander à Hélène, non ? Non ? Bon.
Oui. Oui, donc je voulais revenir, moi j'entendais poser la problématique de l'évaluation d'un enseignement exploratoire. Pour connaître le pays d'Arles, avec les 10 mots de la semaine de la langue française proposés par la Légation générale de la langue française, sur Arles, en train de proposer simplement, c'est la question du territoire de projet, pays d'Arles, 3 musées, musée 1 Arlatan, le musée Réattu et le musée de l'art antique. Ces trois musées, avec les médiateurs culturels que je connais, je suis en train de proposer qu'on prenne, on propose, je vous le suggère, que des étudiants de l'école photographie nationale supérieure de photographie en Arles s'intéressent au pays d'Arles, c'est-à-dire qu'ils partent d'un projet qui serait, et c'est là que j'interviens à l'atelier d'écriture, que des collégiens, des lycéens du pays d'Arles, que je connais fort bien, aillent voir ces trois musées, qu'ils aillent écrire quelque chose à partir de ces lieux, et que cette matière-là devienne, après, un projet de formation. Et à partir de là, on est dans un processus itératif qui va nourrir le territoire. Mais quand il ne part pas d'un territoire de projet, c'est pas un reproche par rapport au protocole, hein. Simplement, moi, je travaille avec, entre autres, en tout cas, avec Martin Vanier, un géographe de l'Institut de géographie alpine de Grenoble, qui a, vous trouvez facilement son papier, c'est interterritorialité, le nouveau design des territoires. La problématique, c'est la territorialisation ou l'interterritorialisation ou la déterritorialisation, c'est-à-dire, comme nous sommes dans une planète globale, tous les propos qu'on peut aborder sont à la fois du micro-local, hein, donc solution locale pour un désordre global, vous avez sans doute entendu parler de ce film, hein, c'est-à-dire comment, quand on travaille sur le local, c'est déjà dans l'universel. Simplement, cette problématique-là, si elle n'est pas dans le protocole initial ancré sur un territoire où reviendrait enrichi un travail qui est fait par des gens qui ont des spécialisations et des compétences, nous perdons le gain, le retour. Alors après, ça a une conséquence pour l'évaluation de l'enseignement respiratoire, c'est que simplement ça ne peut pas être que des enseignants de l'éducation nationale qui font cette évaluation. Imaginez que ça puisse se faire au niveau d'un territoire. Moi, pour ma part, je fais une communication à la maison de la région à Marseille sur ce protocole-là, c'est-à-dire qu'il y ait un rapport au territoire qui soit mieux, plus lisible à l'origine d'un projet. Et j'ai l'impression que ça nourrirait plein de partenariats après.
Alors, j'entends bien votre question, mais... Vous savez, la question des territoires, parce que, vous savez, déjà, de mettre en place ce projet, c'est très difficile. Très, très prenant, parce que c'est deux écoles très différentes, sur deux territoires différents, sur deux régions différentes. Moi, j'ai souvent la difficulté auprès de la région Rhône-Alpes. Pourquoi vous ne travaillez pas avec l'école des Beaux-Arts de Lyon qui se trouve sur votre territoire ? Non, mais laissez-moi parler. Je vous réponds parce que la question des territoires est à double tranchant. Et donc moi, je leur rétorque, mais nous sommes sur votre territoire. ENS, nous sommes à Lyon. Nous sommes une grande école. Nous pouvons aussi choisir avec qui nous souhaitons travailler. Nous avons envie de travailler avec la seule école de photographie en France qui ne se trouve pas en terre rhône-alpine, mais qui se trouve en terre PACA. Donc, voilà, vous voyez, parce que, oui, mais je préfère, vous savez, je vous dis ce contre-argument, parce que la logique du territoire peut aussi renfermer les gens sur leur territoire. Et moi, je dis que c'est une plus grande chance pour la région Rhône-Alpes qu'une grande école située sur son territoire travaille avec une autre grande école située dans une région voisine, que si on se renferme sur nous-mêmes dans notre région à travailler entre écoles voisines. Voilà, c'est tout. Mais sinon, après, tout ce que vous avez dit, je le trouve bien. Mais imaginez aussi que c'est un projet d'élève. Si vous leur... l'aspect libre du sujet, on va dire, est important aussi pour eux, parce que c'est un acte créatif. Vous ne pouvez pas demander à 16 élèves de travailler uniquement sur le territoire d'Arles. Ah, pardon, j'ai mal compris.
Une production sur un territoire avec, pour la remédiation, la délégation générale à la langue française sauf erreur à la droite citée sur dans toutes les régions de France, y compris les extramarins, et que c'est précisément parce que c'est une proposition de la délégation à la langue française que moi je travaille en interrégional là-dessus. On a 2012, le tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau, bon, qui sauf erreur, est connu dans la francophonie, permet, parce que c'est un proveneur, hein, voilà, va s'autoriser à utiliser tous les sens, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je comprends. Et après, on peut partir de choses infimes, et à partir de ça, on construit. Ça ne change rien, votre protocole, si ce n'est, mais là, vous avez bien pointé le problème, c'est qu'une école nationale de photographie, ou ici, l'Institut français, n'a pas de convention très particulière avec la collectivité territoriale région. Alors, quand moi je travaille avec l'Association des régions de France sur justement de la transversalité interrégionale, je rencontre exactement ça. Sauf que je suis au club régional de l'évaluation avec la Société française d'évaluation et l'IUP Lyon, qui a un master suivi et évaluation des politiques publiques. On est au cœur du sujet. C'est ce que vous faites, c'est évidemment dans les politiques publiques, et vous revendiquez de ne pas être piégé dans le territoire en alpin. Il faut en sortir, et en sortir, c'est prendre la langue. Hein, et que nous, c'était ça.
D'accord, j'ai mal compris. Pardon.
Juste une petite remarque par rapport à cette, encore à l'évaluation. En fait, peut-être une possibilité, en tout cas qu'on essaie de toujours pratiquer dans nos enseignements, par exemple de web design ou par excellence, on fait créer quelque chose, hein, et il faut qu'on l'évalue. On évalue les étudiants là-dessus, c'est qu'on essaye toujours d'articuler un travail créatif avec un travail réflexif, en fait, hein. Donc c'est une façon assez simple de rajouter peut-être quelque chose de plus objectivement évaluable à un projet. Par exemple, typiquement, dans un projet de web design, on demande aux étudiants d'élaborer un petit dossier où, en fait, ils réfléchissent sur leurs pratiques et où, en fait, ils donnent des pistes, soit pour rattacher ce qu'ils ont fait à l'histoire de l'art, par exemple, ou à l'histoire de la littérature, ou, vous voyez, et ça permet même, après, si j'ose dire, à des approches peut-être plus scolaire, moins créative dans le sens surprenant, hein, d'être valorisée, vous voyez. Et moi, j'ai fait l'expérience que généralement, les choses, dans ce cas, se compensent assez bien, hein, entre les étudiants qui sont vraiment presque des créatifs nés. Il y en a quelques-uns qui ont le trait, qui ont la main, qui arrivent, mais voilà, qui arrivent peut-être moins bien à avoir une démarche réflexive sur leur pratique, et puis les autres qui pêchent peut-être un peu du côté qui sont trop scolaires, mais qui arrivent à vraiment bien rattacher leur pratique à l'enseignement, à ce qu'on a fait en cours, vous voyez. Donc ça peut être aussi une possibilité, hein. C'est en tout cas ce qu'on essaye de pratiquer. Je crois que Serge, il fait pareil dans ses cours de création de sites web, en fait, hein.
Oui, merci. Moi, je voudrais réagir là. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'évaluation, ça ne pose aucun problème. Il y a juste un problème, c'est la territorialisation disciplinaire. À partir du moment où on a passé le cap, les problèmes s'effacent d'eux-mêmes. Et je voudrais donc rebondir là-dessus. Vous avez évoqué donc la transmédialité, hein, puisque faire le pont entre l'ENS et Arles, aller pieds joints dans l'image. Et donc moi, venant d'une école d'art graphique, je me demande, mais pourquoi ne pas plonger dans l'image graphique? Alors vous avez évoqué des séminaires où viennent des typographes, des graphistes, etc. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus, puisque prendre conscience de la matérialité d'un texte pour un littéraire, c'est quand même, je ne vais pas dire le béaba, parce que moi, j'ai mis 50 ans à m'en rendre compte.
Merci. Et vous,
J'aimerais en savoir plus, oui, sur la transdisciplinarité, hein, concernant le rapport entre le texte et l'image, mais l'image prise cette fois-là en tant que matérialité graphique.
D'accord. Parce que les quelques exemples que j'ai pointés montraient bien quand même qu'il y avait un travail graphique à travers les images. Mais donc, après, vous voulez les intervenants, le parcours de formation.
Comment ça se passe? Comment on fait prendre conscience à un étudiant en littérature de la matérialité graphique d'un dispositif? C'est ça que je veux dire, mais peut-être qu'un élève peut répondre.
Voilà, Hélène va répondre, mais c'est vrai que c'est au cas par cas, donc il n'y a pas vraiment de...
Hélène passe le cap. Je voulais pas jouer le rôle du témoignage, voilà, mais en fait finalement si. Et donc en fait, pour ce qui est de la prise de conscience de la matérialité du texte, personnellement, je pense que c'est le binôme qui a tout fait, enfin, plus encore que les séminaires que je remets pas du tout en question et qui étaient très bien. C'est-à-dire qu'évidemment au départ il y a de la délégation, forcément, puisqu'il y en a un qui maîtrise tous les outils et l'autre pas. Moi je sais que mon premier rendu, ça a été un truc fait sur Paint, je crois, donc voilà, pour avoir... dans la communication qu'il y avait par mail, moi j'essayais tant bien que mal avec les pauvres logiciels que j'avais de...
Juste, Hélène, oui. je me permets juste de dire que Hélène a participé à la première, au premier partenariat duel, hein, qui remonte à 2006. Donc depuis, on a évolué. Donc ce que tu n'as pas connu, oui, voilà. Le séminaire croisé et tout ça, c'est parce qu'on l'a enrichi.
Je l'ai refait, là, j'ai fait deux fois en fait.
Ah,
je
oui.
l'ai fait aussi l'avant-dernière fois, t'as où il y avait du coup le typographe, etc.
D'accord.
Mais effectivement, peut-être qu'il faudrait mettre le point là-dessus.
Deux fois.
Pourquoi ?
Fernand, je te laisse répondre.
Pourquoi ? Ah, zut alors. Bon, désolée pour les fâcheries. Je vais essayer de continuer dans mon rôle de témoin naïf. Oui, et voilà, ce que je voulais dire, moi, c'est plutôt effectivement qu'il y a un travail dans la généalogie de la chose, parce que il me semble que la première année, c'était plus orienté pédagogique, justement, parce que c'était au sein d'un séminaire organisé par Marie Gautron, et où les premières séances consistaient à étudier des images, savoir comment on étudie une image, comment réagir par rapport à l'image, etc. Et que ça avait plus l'air d'un atelier d'écriture vraiment au sens propre et presque traditionnel de la chose, tandis que les années suivantes, il me semble que c'était plus créatif. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où... Enfin, cette année, ça a atteint un point culminant de création, quasiment, parce que personnellement, moi, j'ai pas touché du tout à ce qui est littérature numérique. Enfin, moi, c'était... Enfin, je faisais un truc sur Word et je demandais à mon binôme ce qu'on allait mettre comme typo, quoi. Enfin, pas exactement, là, je me caricature et c'est pas vrai, j'ai plus de conscience que ça de la matérialité du texte, mais bon, voilà. Et il me semble que cette année, ce qui est drôle et intéressant, en fait, c'est que moins le côté didactique est poussé dans le travail d'écriture, plus il est récupéré par ailleurs par un dossier. En fait, c'est ça qui est intéressant, peut-être. C'est qu'au début, on a voulu faire les deux, et peut-être que c'était ça qui n'était pas clair. Et c'était aussi pour ça que le premier exemplaire du livre est plus hybride ou plus hétérogène, parce que moi j'ai fait personnellement un truc très réflexif où c'était vraiment en tant que comment dire, mini savant en germe, comment je réagis face à une image, mais en fait en essayant de la comprendre par des termes techniques, quasiment, enfin, peut-être pas techniques, mais en tout cas oui, abstrait, etc. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, je voulais juste mettre l'accent sur cette évolution-là du projet qui effectivement n'est du coup pas spécialement maintenant axé sur la pédagogie, mais qui peut être repris par ailleurs par la pédagogie, comme le prouve le dossier en fait. Voilà.
Merci. Merci beaucoup.
Donc, c'est intéressant ton témoignage parce que ça montre aussi que les manières de penser des étudiants des deux écoles évoluent et que vous prenez en compte aussi... Bah, tout ce qui est électronique, art numérique, etc. Parce que c'est vrai que là, je suis en train de re-regarder Duel. Il y a très peu d'art numérique dans Duel. Il y a Laurent de Flandre qui écrit à la manière de Zola, à la manière de Flaubert, à la manière de... Voilà, pour accompagner des beaux tirages argentiques d'une élève. Donc là, il y avait beaucoup de tirages argentiques dans cette... Et c'est vrai qu'on est plus dans le... C'est aussi la difficulté, parce que plus le projet a avancé, plus on est sur l'acte créatif. Alors que, c'est vrai, là, il y a aussi Léa Ouzan et puis Valérie Hénaud, où Léa Ouzan a photographié le complexe d'Auschwitz avec Birkenau et Monowice, et comment les Polonais gèrent ces trois sites et cette mémoire qui est difficile. Ben, voilà. Et de manière très factuelle à la chambre, etc. Mais elle a pointé vraiment sur des choses très obscènes, dans le sens premier du mot. Et par exemple, des baraquements où les juifs se déshabillaient ont été transformés en hot dog. Voilà, on vend des hot dogs. c'est assez dur quand on voit ça la première fois. On a du mal à y croire, on se dit, mais c'est. Voilà. Voilà. Et Valérie Hinault était philosophe, et une élève en philosophie, et elle a beaucoup enrichi le propos de Léa Ouzan, qui n'est pas du tout juive et qui est corse, voilà, mais ce qui la rend distante aussi par rapport à tout ça. Et elle a beaucoup travaillé à travers des thèses de Georges Didier Huberman et d'autres théoriciens sur la Shoah. Et ça a beaucoup enrichi aussi le regard de la photographe. Donc vous voyez, là, on n'est pas du tout sur des relations... graphique. On est plus sur un enrichissement entre deux manières de penser, deux manières des savoirs différents voilà, une photographie à la chambre, une lecture, parce que Léa Ouzan ne lisait pas Didier Huberman, etc. Elle, c'est vraiment très factuel. Elle arrive à Birkenau, elle pose sa chambre, mais elle voit vraiment des détails qui sont vraiment, mais des détails actuels sur comment les Polonais gèrent ce patrimoine. Donc Auschwitz devient un musée. Voilà, c'est un musée. Voilà, ce qu'elle a vécu aussi, c'est que il y a des tours opérateurs avec des bus, des heures. Et les médiateurs, mais elle avait vraiment la...
Oui,
la
même chose à Rivesaltes.
Oui, alors, mais là, sur la question du territoire, Léa Ouzan a photographié Rivesaltes et d'autres camps français. Et par exemple, elle s'est installée aussi à Lyon et elle voulait photographier aussi la mauvaise mémoire de Lyon. Et c'est très compliqué. Parce que... On lui a interdit d'aller au CHRD et d'aller dans les caves. Bon, on va peut-être après laisser parler Martine, parce que là, on est plus sur les littératures numériques. Oui ?
J'ai eu un peu l'impression qu'il y avait une sorte d'évitement du numérique, et je me demandais si c'était pas, par exemple, avec le chat qui avait été mis avec une forme plus académique. Et je me demandais s'il n'y avait pas un lien avec le mode d'évaluation, alors, justement. Et ça serait peut-être intéressant de voir c'était quoi les enjeux pour les étudiants et comment ils étaient...
Les enjeux, parce que moi, Martine m'a proposé d'intervenir dans ce séminaire, mais moi, ce n'est pas un projet sur les arts numériques. C'est un projet écriture et photographie. Donc, il y a quand même les mots écriture et photographie. Donc, et après, libre aux élèves d'utiliser les techniques qu'ils souhaitent. Donc, s'ils utilisent un blog, s'ils utilisent une diffusion sonore, s'ils utilisent des moyens obsolètes comme une page dactylographiée et caviardée avec du Tippett, ils ont le droit. Donc, l'évaluation se fait sur tous les supports. Et c'est pas du tout sur parce qu'ils vont être plus innovants, parce qu'ils vont utiliser telle ou telle technologie. Voilà. C'est tout simplement parce que dans les... Ça aurait été impossible de faire mon intervention avec Duel. Avec à distance, il y a beaucoup de projets qui font appel à de l'art numérique. Voilà. D'où le... Voilà. Après, l'évaluation, elle se fait sur... elle se fait par Histoire des Arts et par le Centre d'études poétiques. Vous savez, c'est les fameuses CTS. Donc, c'est d'avoir fait une proposition. Tout à l'heure, c'est pas anodin si j'ai... citer le nom de Jean-Marie Dlaize, parce que c'est quelqu'un qui prône la littéralité, hein, la nudité littéraire, d'aller le plus près du mot. Hein. Et donc, par exemple, un élève qui est très lyrique et qui participe à son projet, il va apprendre à ses dépens à enlever le plus possible de mots et aller le plus près du mot. Et donc, voilà. Et ça vient aussi qu'il est poète, voilà. Et donc, le devenir, voilà. Et donc, après, Histoire des Arts, bon, parce que les enseignants aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils, c'est jamais les mêmes. Donc, Hélène a connu Marie Gautron, mais après, il y a eu Florence Jaillet. Après, il y a eu Gabriel J. Donc, Gabriel, il était plus sur l'art anglais. Donc, vous voyez, chacun aussi a ses apports dans le parcours de formation. Et l'évaluation, elle se fait sur soit des qualités d'écriture, sur la qualité de la rencontre et sur les deux objets produits, il ne faut pas l'oublier, sur les 10 pages dans l'ouvrage. Parce que il ne faut pas oublier que 10 pages, hier on a encore entendu un projet éditorial, c'est très difficile à mener. C'est très difficile à mener parce que, surtout en plus si on fait cette relation de deux mondes, parce que les nôtres, ils ne sont pas dans une école de graphisme hein, ici. Donc, ils doivent aussi se confronter à des logiciels, à des designers graphiques, des webmasters, des typographes aussi, voilà. Des choix de police, des choix de. Voilà, d'arriver à ingurgiter toutes ces connaissances, parce que heureusement c'est sur 2 ans, parce qu'on avait essayé, Hélène a connu un temps plus court et c'était très très difficile à mener. Donc là sur 2 ans, ça permet d'ingurgiter toutes ces connaissances pour le livre et après aussi sur les questions de mise en espace, parce que créer une exposition en plus, si on veut la montrer, parce que vous voyez, l'évaluation elle se fait par les, déjà le fait de pouvoir faire ce livre, mais aussi par le lieu qui nous accueille. La première édition, c'est le Fonds Régional d'Art Contemporain. Quand vous allez frapper à la porte de ces lieux, ils vous jugent aussi sur la qualité que vous montrez, sur la qualité réflexive et artistique. Donc, si vous êtes montré au Fonds Régional d'Art Contemporain à Marseille, ou voir à l'Institut Mémoire des Éditions Contemporaines, ou même là, dernièrement, au Centre Photographique d'Île-de-France, entre Patrick Tosani et Yves Trémorin, il faut aussi montrer une qualité dans la rencontre. Moi, je ne dis pas une qualité de chef-d'œuvre, on n'est pas dans ce... mais une qualité de travail et de proposition. Alors là, avec le... tout à l'heure, il y avait une tablette numérique. Dans le prochain projet, parce que donc, là aussi, c'est intéressant le devenir d'un partenariat, c'est qu'il y a un changement de direction à l'école d'Arles. C'est Eric Dair qui suit le projet, un comparatiste du côté du CRCC. Et donc, on envisage de faire la prochaine exposition... dans un lieu, mais aussi sur une tablette. Mais la difficulté sera de... pourquoi les deux, alors ? Et là, on se pose la question de l'usage. Et si on fera vraiment une exposition uniquement virtuelle, voilà, je pense qu'il faut aller vraiment jusqu'au bout, après, d'une logique. Pardon. Voilà.
J'ai un peu perdu le fil par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, mais je crois que justement ce séminaire là, pour en revenir au séminaire qui est effectivement sur la création numérique, ce qui serait intéressant, c'est que sur cette expérience, il y a une réflexion à l'y faire, un retour réflexif sur cette expérience pour essayer de voir comment au fil des années l'introduction du numérique, ou pas simplement les échanges entre les élèves et les deux écoles, mais l'utilisation des outils numériques, des supports numériques, a pu favoriser soit une prise de conscience de toute la dimension graphique de l'écriture, enfin soit inversement une réflexivité du travail sur l'image, enfin comment finalement le support numérique a apporté des choses nouvelles, des langages nouveaux, a permis cette combinaison des formes sémiotiques, a permis cette réflexion, a fait émerger aussi des nouveaux langages. Ça serait dans un deuxième temps ou parallèlement un travail de recherche pédagogique qui pourrait aussi être réinvesti pour la formation. Enfin, il me semble que c'était pas votre travail de faire ce retour sur, mais que dans le cadre de ce séminaire et de l'IFE, c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui nous ramène au sujet de ces journées.
Tout à fait, oui. Moi, en tant que porteur de projet, je suis preneur de...
Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout à fait dans cet esprit-là, effectivement. En tout cas, les projets évoluent, enfin, ils se transforment et le numérique joue de plus en plus de rôle. Ouais. Donc, l'articulation aussi qu'on a faite entre justement le CERC, donc de laboratoire de recherche de l'ENS et l'IFE, c'est bien dans l'idée, effectivement, de réfléchir sur ce qui se pratique là et penser ensuite vers l'enseignement, dans cette pensée-là.
Si je peux me permettre, pour répondre aussi à la question, avec Eric, lui, il travaille beaucoup sur l'Internet, et donc sur son site, il a décidé de mettre une plateforme du projet. Voilà. Et donc, voilà, les séminaires croisés. Et puis, voilà, des outils, donc la restitution des travaux des élèves sur les ateliers d'écriture, voilà, sont mis en ligne. Donc comme ça, les photographes, ça c'est la prochaine édition qu'on vient de lancer, de 2011 à 2013. On a normalement en ligne les premiers travaux des élèves sur la chute / l'équilibre. Voilà. À partir d'une image d'un des photographes et vice versa. Voilà. Et le prochain, voilà. Et donc les photographes vont consulter et là vous avez après les propositions photographiques sur lesquelles voilà. Mais là vous voyez, vous êtes vraiment dans le work in progress là, parce que c'est les premières étapes du projet. mais via cette plateforme, voilà, qui est mise en ligne, voilà, et qui permet, voilà, pour répondre à votre question, voilà. Mais vous voyez, toutes ces choses, elles évoluent et on les enrichit, et voilà. Et c'est pour ça que votre remarque est très intéressante. Voilà.
Mais c'est bien dans ce but qu'on travaille ensemble, hein, voilà.
Dans les formations d'histoire des arts, même auprès des collègues dans les établissements, on est constamment confronté à des questions qui sont des questions de gestion de classe, de gestion de lieu, parce que vous avez répondu tout à l'heure que c'était pas possible de faire de la création sur un espace clos, on peut pas créer tout sur un même territoire. Forcément, je ne peux que m'inscrire en faux par rapport à ça, en tout cas dans la démarche que vous menez certainement. Mais nous, quand on travaille, par exemple, comme j'en parlais hier avec la Maison du Geste et de l'Image, dont les thèmes de travaux sont, qui est donc à Paris, en face de la Fontaine des Innocents, on travaille avec des classes entières, qui sont des classes parfois difficiles, qui sont des classes chargées. Je suis allée plusieurs fois avec 30 élèves. Donc, forcément, gérer des classes qui vont écrire, photographier, créer dans le cadre d'une création individuelle ou un binôme trinôme, c'est autrement plus rock'n'roll. Ça suppose un protocole de travail. Et voilà, c'est incontournable. Enfin, le collègue qui travaille à Estienne, j'en ai un dont j'ai parlé, là, qui a travaillé avec une école d'art aussi. Ils avaient pris comme lieu de création photographique les passages à Paris. Donc évidemment, tous les élèves, tous les étudiants étaient sur passage. Mais il y avait une vraie recherche, une vraie lecture. Voilà. Je pense que la question de poser là, et que je complète, c'est le transfert des compétences, comment on s'adresse à des enseignants, comment gérer un groupe. Je m'excuse, c'est très prosaïque, mais on peut avoir les meilleures les intentions du monde, être un grand artiste.
Mais vous savez, toutes les questions que vous soulevez là, je les ai vues au Centre photographique d'Île-de-France, qui se trouve à Pont-au-Combeau, dans le centre de Paris quand même, Seine-et-Marne.
C'est
30 minutes en RRE, voilà. Et donc ces classes qui sont à Pont-au-Combeau, nous on a fait le dossier pédagogique avec une enseignante de l'académie de Créteil pour la Seine-et-Marne, où des collégiens et des lycéens viennent voir l'exposition, donc un lieu fermé. Donc vous voyez, après là, tout ce que vous évoquez, c'est vraiment, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Après, c'est des questions de transmission, on a besoin d'un lieu fermé, d'un contenu, d'un support, avec toutes les difficultés que ça. Par exemple, le Centre photographique d'Île-de-France, elle n'a aucun ordinateur à mettre à disposition aux gens. Donc par exemple, tout à l'heure, je rebondissais pourquoi le blog apparaît de manière traditionnelle au mur sous forme de lettrage. C'est parce qu'il n'y a pas de connectique possible dans ce centre.
Non, mais enfin, c'est question de l'action de l'interdisciplinarité aussi, c'était très intéressant.
Oui, mais voilà, parce que tout est une question de positionnement, où on se place pour faire quoi. Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous.
Avant de donner la parole, pour répondre un petit peu à ça, c'est bien le lieu d'interrogation que l'on fait ici. Hein, et j'ai déposé un projet de recherche sur les retombées de l'enseignement de l'histoire des arts dans l'enseignement. Donc c'est un projet de recherche. Et tous les enseignants qui sont associés à la recherche, et je les remercie de leur participation, j'ai envie de dire... avec un remerciement particulier pour tous les professeurs des écoles qui ne sont pas rémunérés, hein, qui travaillent très gracieusement justement pour la recherche. Mais effectivement, on réfléchit à tous ces problèmes-là, c'est-à-dire, comme on a vu hier Cécile qui nous rendait compte du projet qu'elle avait fait, c'est in situ, avec cette classe, avec ces élèves-là. Didier nous montrera demain ce qu'il fait dans sa classe, etc. Tous les enseignants associés disent, voilà dans quelle classe, voilà ce que je fais, avec telle organisation, tel nombre d'élèves, éclatement des emplois du temps, etc. Et toutes ces questions-là, effectivement, on réfléchit dessus, etc. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir des modifications à apporter dans la division en classe, dans l'organisation de l'emploi du temps, pour mener à bien ces projets d'enseignement d'histoire des arts. Voilà, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, on a vu hier avec le travail de Cécile, et elle disait aussi que c'était important pour des élèves de LEP d'avoir un travail abouti, fini, satisfaisant. Voilà, dans le plaisir immédiat. Voilà, c'est ça. Dans la pointe de vue, voilà, c'est ça. Alors, dernière
question. Bonjour. Donc moi, ma question, c'est du... Donc, je travaille à l'UFM, parce qu'il en reste. Et plutôt sur la didactique du français. Et du coup, ma question, c'est par rapport aux discussions d'hier et aux présentations de ce matin, le lien entre la question de la création et de la publication. Et finalement, qu'est-ce que ça déplace en termes d'évaluation? Est-ce que c'est la même chose d'évaluer un travail d'élève ou d'évaluer le travail d'un créateur, de quelqu'un qui tout d'un coup se situe sur une dimension qui est celle de l'artistique. Et voilà. Et du coup, est-ce que ça, en amont, est-ce que ça interroge pas la capacité des enseignants et des enseignantes à réfléchir sur de nouvelles modalités d'évaluer les travaux de leurs propres élèves?
Non, mais je suis d'accord. Ouais, c'est une bonne question parce que voilà, je pourrais l'appliquer au troisième, oui, aux thèses. Par exemple, sur ici, il y a études cinématographiques, études théâtrales, voilà. Et par exemple, un des élèves a fait sa thèse en cinéma. Et il est aussi cinéaste. Et il a fallu vraiment se battre pour qu'une partie de sa production fasse partie de sa réflexion. Parce que ça allait de soi pour nous, mais pas pour toutes les questions de protocole. Et voilà, on retombe sur la question des cases. Et voilà. Mais c'est pour ça que je comprends très bien cette question. Même pour ce projet, vous voyez, c'est très difficile pour nous parce qu'il n'est pas labellisé projet ANR, au grand dam de Jean-Marie Glaise, et on essaie de se rebattre avec Eric Der pour le labelliser. Par contre, on a un laboratoire qui s'appelle Le Destin des Images, où on a réussi à le mettre à l'intérieur, et c'est pour ça qu'on a des fonds. Voilà. Donc, on reprend un titre de Jacques Rancière, mais c'est des grottes de Lascaux jusqu'à nos jours, aux images numériques. Hein, on le fait avec le Frénois, le Studio National des Arts Contemporains, le NSP et notre école, sur le destin des images. Donc, dans ce laboratoire et ce projet, d'où une partie... Parce que, ouais, c'est une question après de moyens... Ouais. Je parlais d'autre chose, là. Mais, oui, je suis d'accord, parce que... Mais les deux autres enseignants qui sont intervenus hier doivent avoir ces mêmes problématiques aussi bien à Paris 8 qu'à Compiègne. Parce que comment évaluer sur des critères... oui ? Non ?
On n'évalue pas une création, on évalue une recherche-création.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a la part réflexive et la part artistique. Oui, mais il ne faut pas... Voilà. Voilà.
Voilà. Mais on ne forme pas des artistes non plus.
Non, mais je...
Même en art plastique, par exemple, aucun enseignant, chercheur va prétendre qu'il forme des artistes. Non, il forme des personnes qui font de la recherche-création. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental à souligner à chaque fois qu'on parle d'évaluation.
Je pense que la question du numérique, avec cette la question que ça pose sur l'acte autorial, c'est bien questionner justement ce qui semble être une évidence. On ne forme pas des artistes, on sait bien. En français, on ne forme pas des écrivains, on sait bien. Simplement, avec l'utilisation des blogs, des outils Internet, il y a ce déplacement où les écrivains se positionnent eux-mêmes comme revendiquent la position d'auteur de leur texte. Ça change quand même un tout petit peu la donne, même si ça peut être très clair d'un point de vue théorique. En termes d'évaluation, tout à coup, les mots qu'on pose sur les textes, les regards, la façon d'afficher les textes, tout ça, ça déplace. On peut bien dire qu'on ne forme pas des écrivains. En fait, à partir du moment où on fait un recueil de tous les textes de la classe, on est dans une démarche éditoriale. Et du coup, par rapport à nos propres consignes, nos propres prescriptions, on se trouve, on risque, on peut être en décalage. Enfin, moi, ça m'interroge.
Je comprends ça, mais on peut seulement remédier à ce décalage ou en demandant aux étudiants ou aux élèves un travail réfléchi. C'est, à mon avis, le seul moyen. Il faut qu'ils arrivent à positionner leur travail et à se positionner par rapport à leur travail. Et c'est une partie tout aussi importante que le travail créatif lui-même. Et dans ce cas, c'est peut-être un compromis un peu mou, mais je vous assure qu'au niveau de l'évaluation, du coup, on a beaucoup moins de problèmes de justification. Non. Parce que ça, en tout cas, nos étudiants le comprennent et l'acceptent.
Alors, on a un peu de temps pour le débat ou pas?
Alors, je vais être. Peut-être qu'on reprendra après. Parce qu'on va peut-être arrêter, là, reprendre tout à l'heure en fin de matinée. Voilà. D'accord.
Il y a pas longtemps, en tout cas, une bonne réflexion. On a la question des enseignants qui eux-mêmes deviennent auteurs. Jusque-là, dans l'éducation nationale, les enseignants ne sont pas auteurs. Et tout d'un coup, sur le net, on aperçoit de plus en plus de sur le site du rectorat, de plus en plus de prises de parole possibles. Au sein même du corps enseignant, cette appropriation de l'acte d'écrire, cette revendication du geste d'écrire et de plus en plus de et là aussi, du coup, on n'est plus simplement le prof lambda qui fait son cours, on devient quelqu'un qui fait un cours parmi d'autres, situé, original, et donc auteur.
Comment ça marche?
Du coup, quand on est face à des élèves, on a aussi un déplacement sur ce champ. On est auteur face à d'autres auteurs.
Alors, juste pour répondre à cette question, parce que c'est difficile, j'ai pas de talent de ventriloque, mais Jean-Marie Delaize répondait toujours, quand je fais un cours d'agrégation, c'est pas le poète que vous avez en face de vous, c'est l'enseignant. Voilà. Quand il fait une lecture de ses thèses, c'est le poète. Voilà.
On va peut-être s'arrêter momentanément sur cette parole. Merci David et merci pour tous ceux qui ont pris la parole.